Bon, dans le Journal de Montréal ce matin, on parle d'une mine, la mine Stornoway, où il y a pas mal d'argent public qui est en difficulté.
Ah, oh, écoute, ça va faire mal, là, Paul. Ça va faire mal. C'est l'histoire de Jean-François Cloutier, donc, qui nous apprend que la mine Stornoway perd beaucoup, beaucoup d'argent, tellement là, qu'ils ont fermé la mine Renard. Ils ont arrêté la production de diamants parce qu'ils sont à court de liquidités. Écoute, Paul, on a, là, nous autres, comme Québécois, là, mis à peu près 750 milliards là-dedans, là. Investissement Québec a 300 millions, la Caisse de dépôt en a mis 125, le Fonds de solidarité 50. On a construit la route, le prolongement de la route 167 qui mène à la mine, on a mis un 250 millions. En tout cas, on en a pour au moins 750 millions. C'était le projet phare du plan Nord de Jean Charest, la mine Stornoway, et c'était le projet phare de la relance du plan Nord sous Philippe Couillard. C'est le plan Nord, Stornoway, et ça a le potentiel d'être au Parti libéral ce que la Gaspésia a été au Parti québécois. Tu te souviens du scandale de la Gaspésia, la papetière, que le gouvernement de Bernard Landry avait essayé de relancer ça, notamment avec la Société Générale de Financement. On avait pompé 250 millions là-dedans, finalement en pure perte. La papetière a été fermée, démantelée. Ça a suivi les péquistes pendant des années, et je me demande si ça sera pas le cas pour les libéraux.
Mais il se passe quoi? C'est le marché?
Ah là, tu lis le papier, c'est incroyable. Là, ce qu'on comprend, c'est que finalement, les diamants sont pas mal plus petits et pas mal moins beaux que ce qui avait été prévu. Mais là, tu te dis, comment ça se fait qu'on a mis autant d'argent pour se rendre compte finalement que les diamants sont pas ce qu'ils devaient être? Là, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, dit « time out ». Avant de continuer à mettre de l'argent là-dedans, on va s'assurer, écoute bien ça, on va s'assurer qu'il y a des experts du diamant qui travaillent avec la direction de la mine, mais tu te dis, ben voyons donc.
C'est pas déjà fait?
Ben comment ça se fait qu'on a mis autant d'argent dans une entreprise où il n'y avait pas d'experts en diamant? Là, il dit, ça va prendre des partenaires qui connaissent l'industrie du diamant pour éventuellement relancer ça. Alors, écoute, moi d'abord, là, je suis content de savoir qu'on va arrêter de pomper de l'argent là-dedans, mais est-ce que la CAQ va vouloir aller plus loin puis enquêter sur ce fiasco? Là, j'ai un haut responsable du gouvernement Legault là, qui vient de me texter dans les dernières minutes, qui m'a dit, écoute, notre priorité, là, d'abord, c'est de sauver nos billes, sauver les jobs, il y a 150 emplois à la mine, et revoir le dossier. Il me dit, les projets économiques dans le Nord, c'est toujours risqué, mais là, on va vouloir savoir s'il y a eu juste de l'incompétence ou est-ce qu'il y a eu de la négligence en plus. Alors, je vais te dire une affaire, là, le Parti libéral, parti du plan Nord, parti de l'économie, oh là là, si la CAQ veut le faire la peau avec une chose comme ça, là, puis, égratigner le reste de la marque de commerce libérale égale économie, là, s'ils veulent aller là, la CAQ, la porte est grande ouverte. Est-ce qu'ils vont vouloir aller là? À voir.
Bon, on revient justement du côté des libéraux avec la course au leadership, avec le retrait de M. Fortin cette semaine.
Oui.
Et là, il y a des gens qui disaient Pierre Moreau, lui avait dit non, mais quoi, es-tu en train de changer d'idée?
Écoute, j'y croyais plus. Moi, je me suis dit, Moreau, qu'est-ce que tu veux? Il s'est essayé en 2013. Il a fini deuxième. Il a fait une très, très belle course. Il a fini deuxième derrière Philippe Couillard. Et sa gang était pas mal toute rendue chez André Fortin, me dit-on. OK? Ses organisateurs, puis plusieurs des députés qui l'avaient appuyé, là, c'était pas mal commis, ou en tout cas, reluquait de très favorablement, mettons, la candidature d'André Fortin. Mais là, Fortin se retirant, ça libère plein de monde. Et là, t'as des organisateurs, t'as des militants, t'as des députés qui se retrouvent un peu orphelins, tu comprends, de candidats. Et là, ce que j'ai appris de plusieurs libéraux, c'est qu'un certain Pierre Paquin est sur le téléphone.
Qui est Pierre Paquin?
Organisateur en chef de la campagne à la chefferie de Pierre Moreau en 2013. Et le message, c'est « Allô? C'est Pierre, comment ça va? » Ben, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je crois bien, tu sais, il était disparu de l'écran radar. « Hey, écoute, on se voit le 4-5 mai prochain au Conseil général de Drummondville. Hey, ça serait le fun. Ça pourrait être l'occasion de faire équipe à nouveau ensemble. » Comment faire équipe à nouveau ensemble? De quoi tu... Ben, c'est ça, là. Il est en train de... En tout cas, c'est perçu par ceux qui reçoivent l'appel, mettons, comme un appel Commets-toi pas trop vite avec Dominique. Attache-toi pas tout de suite avec Anglade. Prends le temps de réfléchir. On se parle à Drummondville, sinon avant.
Mais ce que tu traduis là, c'est quelqu'un qui prend la température de l'eau, là, qui essaie de voir, tenter de mesurer ses appuis.
Exactement.
Ouais.
L'expression, pardonnez-moi l'anglicisme, « kicker les tires ». Tu sais, tu donnes un petit coup de puis savoir si t'as encore de l'air dans tes pneus ou si t'étais à bonne pression, là. C'est ça qui est en train de se passer. Et moi, ce qu'on m'explique, c'est que la free ride à Dominique Anglade, là, le fait que la voie lui est grande ouverte, fait pas l'affaire de beaucoup de libéraux. Ils veulent avoir une course, comprends-tu? Et alors, même que Sam Hamad a vérifié, hein, s'il y avait quelques appuis, puis finalement, là, il a annoncé qu'il irait pas à la chefferie. Je pense que la mairie de Québec l'intéresse davantage. Mais Moreau, c'est autre chose. Parce que Pierre Moreau, là, lui, là, un petit camp de réchauffement, là, un petit camp d'entraînement, là, puis il est prêt à sauter sa glace, là. Tu sais, je vais te dire une chose, avec Pierre Moreau, on aurait une course, là. On aurait une course. Et je me demande même si ça ferait pas l'affaire de Dominique Anglade. Parce que je pense qu'elle veut pas de couronnement. Elle veut arriver au terme d'une campagne qui a suscité de l'intérêt, puis où on en a parlé, puis le débat d'idées, puis tout ça. Et, tu sais, Anglade contre Fortin, d'une certaine manière, Paul, ça aurait été renouveau contre nouveau. Tu sais, ces deux nouveaux qui sont pas en politique depuis très longtemps, en tout cas pas en politique comme élus depuis très longtemps. Anglade contre Moreau, ce serait autre chose. Parce que là, Anglade, évidemment, positionnement renouveau, la nouvelle génération, tatitata. Moreau, c'est l'expérience. Le politicien de carrière, tu sais, le libéral classique, là, aguerri, habile, bon orateur. Tu sais, t'aurais un clash de génération, parce que je te rappelle, Pierre Moreau a 62 ans, Dominique Anglade 45. Donc ça veut dire qu'au moment de l'élection de 2022, là, tu te retrouves avec quoi? Pierre Moreau a 65 ans, Dominique Anglade en a 48. Tu sais, t'as vraiment ces deux générations. Alors ça va être très intéressant à surveiller. Moi, je suis un peu surpris, puis je suis pas en train de vous annoncer sa candidature, je suis en train de vous dire qu'il est en train de vérifier. Il est en train de tu sais, mais tu connais la vieille expression? Celui qui gagne, c'est celui ou celle qu'il veut le plus. Moi, j'ai entendu ça souvent en politique. À un moment donné, celui qui gagne, là, ou celle qui va gagner, c'est celle qui, en bout de ligne, y tenait le plus. Est-ce que Moreau y tient à ce point, veut à ce point devenir premier ministre?
Ou son ancienne gang va essayer de le convaincre en disant, regarde, exact. On a parlé un tel, puis embarque, puis si tu te présentes, puis bon.
Tu vas avoir des appuis.
Ouais.
Exactement, exactement.
OK. On revient sur ce dossier des armes à feu, des armes d'assaut, là, puis les armes de poing. Je vais parler avec le sénateur Pratt, mais tu regardes aller ça, puis c'est pas demain la veille là, qu'ils vont changer les règlements et la loi.
Ah, que c'est déprimant. Écoute, la Nouvelle-Zélande, là, c'est cette nuit. Là. Cette nuit, là, l'interdiction des armes d'assaut en Nouvelle-Zélande est entrée en vigueur dans la foulée, évidemment, de l'attentat de Christchurch contre les mosquées là-bas, là. Et là, c'est le ministre Bill Blair, le ministre responsable là, de regarder ce dossier-là pour Justin Trudeau, a déposé son rapport de consultation totalement non concluant. C'est une vaste blague, en fait. Ils ont fait un sondage en ligne avec un questionnaire auquel tu pouvais répondre un nombre illimité de fois.
Mais c'est ridicule.
C'est ridicule. T'as un militant pro-arme, un Québécois d'ailleurs, qui s'est vanté d'y avoir répondu 25 à 30 000 piastres. Il a activé une espèce de logiciel, puis il a répondu au questionnaire 25 à 30 000 fois. Alors évidemment, les résultats sont complètement faussés. Je parlais avec un stratège libéral hier soir qui m'a à peu près confirmé que l'objectif d'interdire les armes de poing ou les armes d'assaut dans ce mandat-ci, c'est fini. C'est pratiquement fini. Et ce qu'il me disait, c'est que le lobby des armes a fait la job. Ils ont réussi à ameuter des chasseurs qui croient maintenant, là, il y a beaucoup de chasseurs, Paul, là, qui croient maintenant que tout contrôle sur les armes vise ultimement au désarmement. C'est le mot qui court, là. Le désarmement, c'est-à-dire que contrôler les armes à feu, comme les armes semi-automatiques, les armes de poing, ça vise ultimement, là, dans l'esprit des gouvernements, à les priver de la 22 qu'ils utilisent pour la chasse à perdrix ou le 12 pour le canard ou la 30-06 pour l'orignal. C'est rentré dans la tête de beaucoup de chasseurs. Alors, il m'expliquait donc que dans la foulée de l'affaire Wilson-Raybould, il y a beaucoup de députés libéraux qui sont encore secoués. Et c'est à peu près, il m'a dit, garde, on sera pas capable de le vendre une interdiction de certaines armes semi-automatiques automatiques ou des armes de poing à nos députés libéraux, notamment des régions rurales et semi-rurales. Le lobby des armes, Paul, est très, très bien financé par les fabricants d'armes, souvent des entreprises étrangères. Alors, résultat de tout ça, ben l'arme qui a été utilisée par Alexandre Bissonnette, l'arme d'assaut, qui s'est heureusement enrayée, reste légale. L'arme utilisée par Baines contre Pauline Marois, dans l'attentat contre Pauline Marois, reste légale au Canada. L'arme utilisée pour abattre trois agents de la GRC à Moncton reste légale. L'arme utilisée par Kim Gill à Dawson reste légale. Les armes qui ont servi dans les attentats d'Orlando et Las Vegas restent légales au Canada également. C'est là qu'on est, mon gars.
Merci. Bon week-end.
Salut.
Salut. 7h13.